La culture entreprise, concrètement, c'est qu'est-ce que tu fais, comment tu fais les choses, pourquoi tu les fais et où tu veux aller ensemble.
Chère auditrice, cher auditeur, bienvenue sur La Machine à Sens, votre podcast consacré aux entreprises à mission. Mon objectif est simple, que cette notion prenne forme pour vous, qu'elle nourrisse vos réflexions en direction d'une entreprise plus responsable et que vous repartiez avec des bonnes pratiques, des écueils à éviter et surtout une envie débordante. Je m'appelle Vivien Pertuso et j'ai le plaisir de vous accompagner dans cette expérience. Dans cet épisode, je reçois Vincent Aboyance-Billier, harmoniste d'entreprise et hôte de podcast Harmony Inside. On a tous une obsession, celle de Vincent, c'est la culture d'entreprise. Ça faisait un moment que je souhaitais aborder ce sujet qui est un corollaire indispensable à travailler quand on définit et qu'on décline sa mission. Avec Vincent, on revient sur cette notion parfois un peu floue de culture d'entreprise, sur ce qui constitue les piliers d'une bonne culture, l'attitude à adopter pour tout faire échouer, et oui, aussi, et différentes étapes pour mieux la structurer et la faire vivre en interne. En fait, la culture, c'est cet actif intangible dont disposent toutes les entreprises dès lors qu'elles existent, mais que trop peu prennent le temps d'analyser, de structurer, d'animer et d'améliorer. Et pourtant, c'est souvent ce qui différencie une entreprise qui réussit d'une autre qui patine. C'est donc un épisode plutôt pratique et surtout avec beaucoup de bonne humeur. Et oui, petit disclaimer, on se connaît un petit peu avec Vincent parce que je fais également partie du collectif Biharmoniste. Pour les plus attentifs d'entre vous, vous remarquerez que cet épisode a été enregistré avant l'été, mais je ne vous en dis pas plus et je vous laisse le découvrir. J'espère que son propos résonnera chez vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager avec vos collègues, dans vos réseaux, à votre entourage, et également à le noter sur les différentes plateformes d'écoute, notamment Apple Podcast et Spotify. Ça permet de faire remonter le podcast pour le faire découvrir à d'autres auditeurs. Alors, prenez des notes mentales ou à l'écrit, c'est parti. Bonjour Vincent.
Salut Vivien.
Eh bien, c'est un vrai plaisir de t'avoir dans le podcast. Alors, on fera tous les disclaimers qu'il faut, etc. On se connaît un petit peu.
On se connaît un peu, et c'est même pas la première fois qu'on enregistre ensemble, d'ailleurs.
Eh ben non, parce qu'en fait, je te rends l'appareil, mais on avait prévu que de toute manière, on allait faire ça ensemble, et on expliquera rapidement pourquoi effectivement je te rends l'appareil.
Aucune connivence, aucun conflit d'intérêt ici.
Voilà, exactement. Évitons tout problème. Mais quand même, avant de rentrer dans le vif du sujet, parce qu'on va beaucoup parler de culture d'entreprise aujourd'hui. Mmh. Petite présentation de toi, je te laisserai corriger, amender, ajouter des éléments. Donc Vincent Aboyance-Billier, tu es pour moi la meilleure incarnation du millénial tel qu'on le lit dans les articles.
Oh mon dieu, ça commence très mal ton histoire.
Alors t'as un parcours assez classique au départ, grande école, gros cabinet de conseil, mais en fait tout ça c'était pas vraiment toi. Toi, t'es plutôt dans une logique entrepreneuriale, à décider un peu de ton propre destin. Donc déjà dans tes études, tu faisais du coaching de pair. J'ai vu ça sur ton profil LinkedIn. Donc c'est assez naturel que tu te décides de sortir du salariat et de voler de tes propres ailes. Aujourd'hui, tu es consultant indépendant et tu vises plus spécifiquement à, je cite, aider les dirigeants à aligner leurs équipes autour de la culture d'entreprise. C'est comme ça que tu te présentes sur LinkedIn. Tu fais partie, comme moi, du collectif de consultants Biharmonie, spécialisé sur la culture d'entreprise. On salue Patrick au passage et tous les autres harmonistes. Et à tes heures perdues, mais peut-être plus nombreuses qu'on ne le croit, hein, tu nous expliqueras, on y reviendra dessus vers la fin de l'épisode, tu aimes monter sur les planches pour faire du théâtre.
Absolument.
Et évidemment, last but not least, tu es l'hôte du podcast Harmony Inside, donc je ne manque quasiment aucun épisode. Est-ce que tu voudrais ajouter des éléments ?
Écoute, je sais pas ce que j'ai fait comme coaching de pair sur LinkedIn, pendant mes études, que j'avais dû écrire sur LinkedIn du coup, mais il faut peut-être que j'aille voir ce que j'ai écrit sur ce truc-là. Mais non, effectivement, bah, j'ai pas grand-chose à ajouter. Merci d'avoir essayé de résumer ce que je fais. Ça me permettra d'arrêter de répondre à la question « qu'est-ce que tu fais dans la vie en soirée ?» par Oula, je vais t'expliquer. Non, merci, il n'y a rien à ajouter. C'est très, ça me paraît très complet.
Alors, je te propose qu'on commence par une citation qu'on entend souvent quand on parle de culture. Hein. La culture, c'est comme la confiture. Moins on en a, plus on l'étale. Mmh. Quand on applique ça à la culture d'entreprise, qu'est-ce que ça te dit, toi ?
Ça me dit que plus tu essaies de faire semblant d'être une entreprise cool, moins tu risques de l'être à l'intérieur. T'as des entreprises qui affichent et qui communiquent énormément sur leur culture, et c'est génial. Mais par contre, je pense que ça répond un peu à une tendance qui est en train de de péricliter un peu maintenant, mais à une époque, tu vois, tu pouvais avoir tendance à être hyper brillant, shiny, vu de l'extérieur, parce qu'il fallait absolument attirer énormément de monde. Tu faisais énormément de promesses, t'étalais partout à quel point ta boîte était géniale. Et une fois que tu rentrais, bah, il n'y a plus rien, quoi. Tu te rends compte que l'emballage est très brillant, mais que l'intérieur est assez vide, que tout ce dont on t'a parlé est faux. Bon, je caricature de manière volontaire, mais souvent, comme le dit très bien ta magnifique citation, plus tu ressens le besoin d'écrire tes valeurs sur les murs, moins elles sont sans doute incarnées dans la réalité. Et je suis souvent surpris par des boîtes qu'on me recommande, notamment pour le podcast Herman Inside, où on me dit « Oh, cette boîte, elle a une culture de dingue. » Moi, je regarde leur site web, ça fait pas rêver, je trouve quasiment aucune mention. Bon, on me l'a recommandé, et c'est toujours des gens très bien qui me les recommandent, donc j'y vais, je fais l'interview, je prends le call avec le dirigeant, et je suis là « Ah ouais ?» Mais tu fais tout ça, mais pourquoi t'en parles pas plus ? Et c'est souvent dans ces boîtes-là qu'il y a de la culture la plus dingue, en fait.
Alors, justement, parce que le terme de culture d'entreprise, on en parle de plus en plus aujourd'hui, et tout le monde dit « Ouais, il faut vraiment travailler sa culture d'entreprise. » Mais est-ce que tu peux nous expliquer, concrètement, c'est quoi une culture d'entreprise ? Qu'est-ce que ça recouvre ?
Vaste question. Il y a 80 000 définitions différentes. La culture d'entreprise, concrètement, c'est qu'est-ce que tu fais ? Comment tu fais les choses ? Pourquoi tu les fais ? Et où tu veux aller ensemble. Ça serait les quatre grands piliers de la culture, ce serait ça. Concrètement, c'est un ensemble de comportements, de normes, de façons de faire qui font que ton organisation, ta société, tu vois, on parle d'entreprise, on parle de créer une société, mais il y a un peu de ça, c'est quels sont là les codes qui font que cette tribu, ce groupe d'êtres humains fonctionne et fonctionne de manière singulière, idéalement le plus singulièrement possible, qui fait qu'il n'y a pas deux cultures qui sont pareilles en théorie. Voilà, c'est le comment on fait les choses ensemble.
Et on dit toujours, oui, il faut travailler sa culture et en soi qu'il y a même toujours une culture d'entreprise, même si elle n'est pas formalisée, etc. Pourquoi en fait on peut considérer que même une entreprise qui n'a pas travaillé sa culture d'entreprise a une culture d'entreprise ?
Parce qu'elle existe et qu'elle réunit déjà un groupe d'humains qui font déjà des choses. La question c'est est-ce qu'ils sont au courant, est-ce que tout le monde est aligné sur la façon dont on a de faire les choses ? Au final, que tu veuilles ou pas, t'auras une culture. À partir du moment où tu mets 10 personnes dans une pièce et que t'en fais un groupe qui poursuit un objectif commun, il y a des choses qui vont se créer, il y a des relations qui vont se tisser, il y a des choses qui vont être acceptées, d'autres qui vont pas l'être. Il y aura un but, il y aura quelque chose de produit ou pas. Et tout ça va créer une culture. Et qui d'ailleurs souvent va être très émanante de du dirigeant, du fondateur de l'entreprise. Le degré zéro, c'est je suis un fondateur, les gens font comme je veux parce que c'est moi qui décide. Et donc la culture, ce sera mes valeurs, ma culture à moi. Il y a des choses que je trouve inadmissibles, qui ne seront pas les mêmes qu'un autre fondateur dans une autre boîte trouvera inadmissible. Donc pourquoi tu le travailles ? C'est de dire, cet actif qui existe, soit je le subis, soit je le choisis et je l'exploite. On a beaucoup parlé des entreprises qui étaient assises sur leurs données, qui n'en faisaient rien. Ah là, mon Dieu, une mine d'or perdue. La culture, c'est la même chose, mais pour l'élément humain de ta boîte. Tu vas aligner tout le monde autour de « voici la manière dont on fait les choses ». C'est-à-dire que tout le monde va mettre le même sens derrière les choses. Donc d'ailleurs, quand on va parler à un client, que ce soit le head of sales, le fondateur ou le dernier stagiaire, les gens vont dire la même chose de la même manière, tu pourras leur faire confiance. Tu peux faire confiance, tu sais que tout le monde est globalement d'accord sur ce qu'on fait, comment on le fait, pourquoi on le fait et où on va ensemble, plutôt que d'avoir des gens qui tirent dans 10 directions différentes. Quoi.
Et est-ce qu'il y a un moment, un bon moment pour travailler sa culture, parce que en soi, tu reçois pas mal de dirigeants sur le podcast, même t'en accompagnes, qui à différents moments de la vie de l'entreprise se disent peut-être qu'il faudrait qu'on travaille notre culture. Est-ce que toi tu considères qu'il y a un bon moment pour travailler sa culture d'entreprise?
Alors je veux dire que tous les moments sont bons. Le meilleur moment pour le faire c'est au début, le deuxième meilleur moment c'est sans doute maintenant. Non, pour le coup, comme tu le dis, j'ai reçu pas mal de monde et j'ai accompagné pas mal de monde. Il y a tous les cas de figure. Peut marcher en fonction de la boîte. Enfin, tu vois, j'avais Olivier Brouran, qui est le fondateur et le CEO d'une boîte qui s'appelle Mantou. Aujourd'hui, ils sont quasiment 10 000, je crois. Ils ont attendu d'être 900 pour écrire leur valeur. Bon, ça me semble complètement fou. Pourtant, ça a très bien marché pour eux. Tu vois, je suis pas là pour te dire leur modèle est mauvais. À l'inverse, ce matin, j'étais avec un client. C'est une boîte de une personne et il a envie de travailler ses valeurs dès maintenant parce qu'il va partir enlever, il va recruter et il veut avoir des critères de recrutement objectivés pour commencer. Donc le meilleur moment, c'est dès le début, notamment si tu as plusieurs associés, c'est intéressant de se poser ces questions, parce que derrière c'est la question de qu'est-ce qu'on veut créer ensemble et comment on veut manager les gens. Il vaut mieux s'en rendre compte avant qu'il y ait des problèmes concrètement. Et ensuite j'aurais tendance à dire qu'il faut le refaire régulièrement. Quand tu vas passer à vers 10-20, tu peux encore être dans une pièce et avoir quelque chose de très implicite, parce que c'est souvent des gens que tu as recrutés parce qu'ils te ressemblaient, ou parce que le feeling est encore présent, les dirigeants sont encore impliqués dans les process de recrutement. Quand tu vas passer le stade de 30, 40 et 50, c'est là qu'on a en fait beaucoup de demandes en 30 pour définir des valeurs, une culture, etc. Tu arrives au stade où l'information se perd, tu commences à plus connaître tout le monde ou plus aussi bien, tu peux de moins en moins voir tout le monde. En général, tu es dans un stade d'accélération de ton activité aussi. Donc tu as besoin de te dire, je peux leur faire confiance, je peux lâcher la bride, je peux lâcher le contrôle. Et donc là, c'est vraiment le moment où ça devient quasiment critique de le faire, à mon sens, pour passer ce fameux cap des 50 où ton rôle en tant que dirigeant change aussi, quoi.
Et est-ce que tu estimes qu'on peut avoir plusieurs cultures à l'intérieur d'une même entreprise, ou il faut forcément en avoir qu'une seule ?
Qu'est-ce que tu veux dire par plusieurs cultures ?
Bah, en soi, tu peux avoir différentes typologies de métiers qui sont vraiment très très différents, et donc de fait, ils peuvent avoir des rapports à l'entreprise un peu différents, tu vois. Enfin, prenons, je sais pas, l'exemple d'une industrie par exemple, ceux qui sont dans les usines peuvent avoir un rapport différent de l'entreprise par rapport à ceux qui sont dans les bureaux. Et donc potentiellement des comportements différents, des valeurs un peu différentes. Est-ce que les deux sont, tu dois forcément arriver à une culture commune, ou tu peux avoir différentes cultures, ou une culture avec des aspects un peu différents?
Alors moi, j'aurais tendance à te dire que tu peux pas avoir plusieurs cultures dans une entreprise, ça va être un gros problème. Et c'est souvent pour ça, par exemple, que quand tu fais des rapprochements, des fusions, des acquisitions, ça va péter, parce que les entreprises sont culturellement trop différentes. Par contre, tu peux avoir une même culture avec des particularismes locaux. Ça va être le cas pour des groupes internationaux, ça va être le cas pour des entreprises qui ont énormément de bureaux un peu partout en région, ou comme tu le dis, pour des boîtes qui ont des activités très différentes. Mais pour le coup, ta culture, ce que je vais mettre derrière ta culture, tes valeurs, etc., en théorie, c'est le plus petit dénominateur commun qui va te rassembler. Et plus il est partagé, plus ta culture sera forte. Tu peux être la même boîte, il y a une boîte, à un moment donné, il faut qu'elle ait un cap, une ambition, une vision, tu peux pas en avoir 10. Il faut un business model, pas 10, sinon on va pas y arriver, on n'aura pas à vendre. Et typiquement, même dans ces boîtes qui ont des activités très différentes, il est quand même très rare qu'elles fonctionnent uniquement en silo, même par activité. Ou alors c'est des boîtes qui ne marchent pas forcément bien, ou c'est de la franchise. Mais bon, c'est un modèle très particulier. Si tu veux pouvoir faire travailler des gens qui sont, pour reprendre l'exemple d'un épisode que j'ai fait cet après-midi, avocat, comptable, informaticien, consultant, tu fais travailler ensemble pour un seul projet, il faut que dans les rapports humains et la manière dont on va collaborer, au-delà des expertises de chacun, il faut que tu aies des éléments qui soient partagés, sinon on ne se sent pas.
Si on prend d'autres aspects de l'entreprise et de se dire, bon, bah, concrètement, ça peut avoir tel ou tel impact positif, il faut espérer quand même. Prenons, parce qu'évidemment, on se pose la question de la performance économique.
Ouais. Oui, en général, c'est pour ça qu'on monte des boîtes. Hein.
Voilà. C'est, en tout cas, c'est pour assurer une certaine pérennité, etc. Est-ce que tu estimes, après, n'hésite pas à donner des exemples, des chiffres si tu en as, mais est-ce que travailler sa culture a un impact positif sur sa performance économique ?
Oui, mais en fait, pour moi, c'est la même question que, est-ce qu'avoir une équipe fonctionnelle fait que ton entreprise marche bien ? La réponse est souvent oui. Alors, tu peux le voir comme... on aime bien le biais d'aversion à la perte, tu sais. Qu'est-ce qu'on va perdre en travaillant pas sa culture ? Bon, j'ai pas le chiffre du coût d'un mauvais recrutement, mais ça coûte très cher. Ça va être 50, 70 000 euros. Enfin, après, ça dépend des profils, etc. Mais tu perds du temps, tu perds de l'argent, tu perds des ressources. Autant de choses. Donc, je dis pas que tu feras jamais un mauvais recrutement en travaillant ta culture, mais tu vas d'autant diminuer ton risque. C'est une approche très gestionnaire de la culture. T'as aussi des études qui ont été faites sur le fait que plus ta culture est définie, plus les employés sont motivés autour de ça, et notamment plus ta culture est saine, moins tu vas les motiver par de la pression économique, par de la hiérarchie, etc., plus les clients se sont satisfaits. T'as des corrélations directes, satisfaction client, culture entreprise. T'as aussi le fait que je crois que t'as un cadre sur 3 qui démissionne dans les 6 mois quand il arrive, parce que pas d'onboarding, et on comprend pas vraiment pourquoi il est un peu tout seul. T'as une culture claire, normalement elle est déclinée en tes process de recrutement, process d'onboarding, relation client, et donc oui, ça a une énorme performance économique, parce que t'as juste une équipe qui va fonctionner.
Alors ça m'amène justement au deuxième aspect avec la performance économique, qui est la marque employeur. Parce que tu as déjà pas mal parlé de tous les process de recrutement et le fait que ça doit avoir des incidences sur le process de recrutement, etc. Mais comment est-ce que justement le fait d'avoir une culture que tu as travaillée a un impact sur ton processus de recrutement ?
Alors il y a deux choses si tu veux. Déjà aujourd'hui, tu es un individu, tu as des valeurs, tu vas chercher elle est à ce qu'elle soit satisfaite au quotidien. T'as une raison d'être, un purpose, comme tu veux, à toi, et tu vas chercher logiquement à œuvrer dans un environnement qui va te permettre de révéler ça et d'utiliser ça au mieux. À l'inverse, dans un environnement qui est très contraint, très différent de tes valeurs, tu vas énormément adapter ton comportement, tu vas créer de la dissonance cognitive, tu vas être malheureux, tu vas finir en burn-out. Bon, je l'exagère très fortement le trait, mais c'est pour
qu'on comprenne l'idée. Ouais.
Voilà. Et donc, et en gros, si tu veux, enfin, il y a le côté te connaître toi, et il y a le côté l'endroit dans lequel tu veux aller. Pour moi, le rôle d'entreprise, c'est aussi d'être capable de dire aux gens qui veulent recruter, voilà comment c'est chez nous, voilà ce que tu vas trouver chez nous. Ça ne veut pas dire, je vais forcément m'adapter pour créer l'endroit le plus sexy par rapport à ce que veulent les générations Z ou je ne sais pas quoi. C'est-à-dire, chez nous, c'est comme ça, et on te le dit de manière claire. Ne perds pas ton temps si ça ne te va pas, et ne nous fais pas perdre le nôtre. Donc, là, en termes de marque employeur, c'est juste faire cette promesse-là. Parce que tu peux mettre des termes techniques, tu peux appeler ça l'employee value proposition. Enfin, je viens chez moi, qu'est-ce que tu vas trouver? Et ça, c'est directement lié à ta culture. Voilà le purpose sur lequel on travaille, voilà la manière dont on fait les choses, voilà ce qu'on vend et comment on le vend, l'ambition qu'on va avoir ensemble et comment tu vas pouvoir y contribuer. Ça, c'est juste pour moi la base de ta marque employeur. Après, tu peux donner des stylos, des tasses, c'est ce que tu veux, mais pour moi, la base de la marque employeur, c'est cette capacité à communiquer là-dessus.
Et pareil, une fois que tu es rentré dans l'entreprise, de fait, j'imagine que la culture a un impact sur le management, etc. Comment ça se passe? Est-ce que de fait, ça signifie qu'il faut adapter les process en interne, les postures à avoir, les attitudes?
Alors, je reviens pour répondre à ça, je reviens juste en amont sur ta question d'avant. Tu parlais de recrutement et du process de recrutement en lui-même. Les valeurs, c'est aussi un cadre, et la culture de manière plus générale, mais les valeurs s'expriment beaucoup dans ce cadre-là. Pour se dire, ça joue un peu un rôle d'attraction-répulsion, si tu veux. C'est une sorte d'organisme vivant avec une membrane qui va laisser passer les gens qui sont chargés de la bonne manière et qui va repousser les gens qui ne sont pas chargés de la bonne manière. Et le fait de s'être mis d'accord sur ces critères-là, ça va enlever la notion d'intuitu personnalisé, ce qui est très dur à dire, pour la remplacer par des critères objectivés, et tu vas te protéger ton organisation de gens qui ne partagent pas tes valeurs, en fait. Donc ils vont potentiellement, le jour où ils seront managers, pas manager de la manière dont tu souhaites qu'ils soient managés. Et toute la question, c'est, en tant qu'entreprise, qu'est-ce qu'on veut être et à quoi on veut ressembler? Donc le but, c'est d'attirer des gens qui vont partager ça. Après, beaucoup plus prosaïquement, une fois que tu as défini ça, tu peux mettre en place des formations pour tous tes managers, enfin, des académies du management, tu peux leur présenter les valeurs, tu peux les formaliser, ça peut être un support d'évaluation et de fixation des objectifs des collaborateurs et des managers. C'est aussi un support dans la manière dont tu manage très concrètement. C'est un outil que tu peux utiliser en tant que manager. Ta culture, ce qui est bien, c'est qu'elle devient rapidement opposable. C'est-à-dire que les gens vont te dire, là, t'es pas dans les valeurs. Et tu peux aussi t'en servir pour un collaborateur en disant, ça, c'est pas OK. C'est pas moi qui le dis. On s'est collectivement mis d'accord sur le fait que ça, c'était pas OK chez nous. Et c'est vraiment super aidant et soulageant, je pense, pour un manager, notamment pour des jeunes managers, tu vois, de pouvoir s'appuyer sur ce cadre-là plutôt que de devoir tous dire, mon Dieu, est-ce que c'est mon compas moral qui marche ou pas, quoi.
Alors justement, on a parlé de pas mal d'éléments, d'ingrédients, tu as parlé de valeurs à l'instant, etc. Si tu devais un petit peu définir les ingrédients d'une culture saine, ce serait quoi?
Vaste question, il y a plusieurs trucs là-dedans. Là, c'est qu'est-ce qu'on appelle une culture saine, ce qui est une technique classique, du coup, je ne sais pas répondre à une question. Non mais en fait, est-ce qu'il y a une bonne ou une mauvaise culture? J'aurais tendance à dire qu'une culture assumée va attirer les gens qui font que moi, à titre perso, j'irais pas travailler dans une boîte où c'est vraiment des horaires horribles, énorme pression, énorme ambition, ils doivent être le meilleur dans tout. Il y a des boîtes qui existent comme ça, elles attirent des gens qui se développent dans cet environnement-là, tant mieux pour eux. Enfin, je suis pas là pour faire un jugement de valeur sur ce que c'est qu'une culture saine ou pas. Après, qu'est-ce que c'est qu'une culture saine?
Alors c'est pas tant forcément qu'est-ce que c'est qu'une culture saine, mais pour toi, quels sont les ingrédients qui amènent à une culture saine?
Oui, en fait, c'est à quel point tu as une culture qui va être forte et qui va rayonner. Je dirais qu'il faut qu'elle soit utilisée partout, c'est au bon niveau. En gros, la culture, c'est ni l'apanage du chef, du dirigeant, ni, à l'inverse, dire la culture, c'est l'affaire de tous, donc on fait rien. C'est pas une posture qui va marcher non plus. En gros, chacun va avoir un rôle différent. Tous les individus, que ce soit, peu importe leur grade, leur fonction, leur métier, leur expertise, il faut qu'ils soient au fait de ces comportements-là, qu'ils les incarnent et qu'ils les vivent. Ça va créer le fait que chacune des parties du tout va être à la même fréquence et que ça va fonctionner. Quand t'es manager, tu vas avoir un rôle de diffuser cette culture, de la promouvoir dans ton équipe. Enfin, t'as une notion de principe de subsidiarité presque, tu vois. T'es au bon échelon pour t'assurer que dans ton équipe, les gens sont bien évalués de la bonne manière, qu'ils travaillent de la bonne manière, et tu vas être le garant de cette culture à cette échelle-là. Quand t'es au niveau dirigeant, CEO, fondateur, là t'es carrément dans un rôle de rôle modèle, tu dois être exemplaire, ce qui veut pas dire que tu dois être, que t'as une obligation d'être tout le temps à 100% dans ta culture, mais si t'y es pas, bah donne l'exemple et dis que, ok, bah là j'y étais pas, c'est pas grave, ouais, on s'améliore, tu vois, enfin, c'est aussi ok. Et il y a cette notion d'impulser des politiques au niveau de l'entreprise, parce que tout peut pas être géré par les comportements individuels, c'est derrière comment je vais le décliner, bah, par exemple dans le processus de rémunération, dans les avantages que je vais donner à mes salariés, dans la politique de parentalité, enfin, toutes ces grandes décisions qui vont se faire à des niveaux entreprise et qui vont être aussi, on a déjà parlé, process de recrutement, onboarding, process de vente, communication externe, plateforme de marque. L'idée, c'est vraiment que la culture transpire à toutes ces échelles-là et chacun a un rôle à y jouer et au niveau individuel, et au niveau collectif, et au niveau de l'entreprise.
Et alors avant qu'on rentre dans la phase un peu méthodologique, si je puis dire, sur comment travailler sa culture d'entreprise, pour toi, quel est le pire ennemi une fois que tu as fait ton travail sur la culture entreprise, comment faire en sorte que ça périclite, que vraiment ça soit le chaos absolu et tu te dises, en fait, cet exercice-là, il n'a pas du tout marché en interne.
Il y a plusieurs moyens de le faire péricliter à plusieurs stades du travail, mais... Par exemple, tu peux décider d'écrire tes valeurs sur un coin de table et de jamais les changer. Par contre, tu les peins sur les murs et elles ne bougeront jamais depuis 50 ans. Bon, là, tu es sûr que ça ne va pas donner grand-chose. Tu peux aussi prendre des valeurs parce qu'elles font bien. Parce que tu te dis, ah, ça va plaire aux gens. Ça va avoir un aspect très marketing, tu vois, dans la culture, qui ne corresponde pas du tout à qui tu es, mais à ce que tu voudrais qu'on pense de toi. Ça, je pense que c'est le pire enfer. Si tu fais ça, tu es sûr que ce sera ce que je te disais au début. Tu vas attirer des gens, ils vont rentrer dedans. Ils vont ouvrir la porte, ils vont se rendre compte d'à quel point tout est un décor en carton-pâte avec des marionnettes derrière, et ils vont se barrer en courant. En fait, c'est juste le manque d'authenticité, le manque de sincérité, et je pense le fait de se dire « maintenant c'est fait, c'est bon, on ne touche plus », de se reposer sur un acquis qui en fait va beaucoup changer, puisque notamment quand tu es une entreprise qui grandit, bah, ta boîte, c'est pas la même à 30 qu'à 150, parce qu'il y a 120 nouvelles personnes, et encore si tu n'as pas de turnover, qui sont venues amener qui ils sont, là-dedans, donc forcément, le système va un peu évoluer. Donc, tu as intérêt à te reposer la question et à jamais en faire un acquis.
Il y a un élément qui est hyper intéressant avec le travail sur la culture d'entreprise, c'est que tous les dirigeants d'entreprise qui l'ont fait disent « Ah ouais, franchement, heureusement qu'on l'a fait, c'était hyper important, on voit les bénéfices, etc. » Pareil, il y a pas mal d'enquêtes qui sortent là depuis 1-2 ans, alors c'est peut-être lié au Covid aussi, où les dirigeants considèrent que c'est un élément hyper important de travailler sa culture d'entreprise. Et pourtant, alors je peux le voir moi plutôt sur les entreprises à mission, mais même dans le cadre de Biharmoniste, et j'imagine que toi tu le vois encore plus directement dans tes missions d'accompagnement aussi, quand on veut commencer à travailler sa culture, oui, mais bon, quand on a le temps, c'est plus accessoire, un peu périphérique. Comment est-ce que pourquoi est-ce que, avant de commencer à travailler, on se dit, ouais, c'est un peu périphérique, alors qu'on estime que c'est hyper important?
Alors, déjà, je vois pas tant que ça, et je pense qu'on le voit pas tant que ça, même à l'échelle du collectif, sur ça, parce qu'en général, quand tu viens solliciter les harmonistes, c'est que tu as eu une envie déjà de travailler sur le sujet, une sensibilité au sujet, et j'ai envie de te dire, même en tant que collectif, on prendra pas des missions qui sont bullshit, pour dire le mot qui revient souvent sur le sujet. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on hésite? Je pense que la réponse la plus simple, c'est parce qu'il n'y a pas un ROI immédiat. Ça sert à rien de te dire, ouais, tu travailles ta culture, demain tu feras plus 50% de chiffre d'affaires, je n'y crois pas un instant, je pense pas que ça marche. Par contre, le ROI, tu vas le voir au bout de 6 mois, tu vois, au bout de 6 mois, au bout d'un an. Et tu vas le voir, bon, tu peux mettre en place plein de petites choses qui vont commencer. Mais tu vas vraiment sentir une transformation culturelle et radicale au bout de quelques mois, et ça va se faire de manière très, très douce. En tout cas, c'est l'objet. Là où, à l'inverse, ce que je peux très bien comprendre, hein, tu es un fondateur, tu as la tête dans le guidon, tu travailles dans ta boîte et pas sur ta boîte, ce qui est vraiment un écueil que tous les entrepreneurs vont te donner. Je ne suis pas là pour donner des grands conseils à l'entrepreneuriat, mais c'est un truc que j'ai beaucoup entendu. Et donc, tu tweaks une feature de ton produit ou de ta landing page, etc. Tu fais plus 15% de conversion du jour au lendemain, ton revenu est impacté directement. Donc ça, je peux très bien comprendre. Tu recrutes plus de sales, tu feras plus de business, t'as ton ROI et tout de suite. Par contre, tu vas, à force de faire ça, tu vas te rendre compte que ta boîte elle a grandi et tu ne te seras pas rendu compte sans t'en rendre compte. Un matin, tu vas te réveiller, tu reconnaîtras plus ta boîte, tu reconnaîtras plus les gens qui sont dedans. Il y a vraiment des histoires de fondateurs qui sont extrêmement malheureux. Je pense à un épisode d'Harmony Inside, le fondateur de Cheers qui vient, qui te dit « j'avais plus envie d'y aller ». On courait partout comme une horde de poulets sans tête, je savais pas ce qu'on faisait, personne savait ce qu'il faisait, et on a dû se séparer de la moitié de la boîte à l'époque, je sais pas si c'est la moitié, mais on a dû se séparer de plein de gens, ça a été hyper douloureux pour moi. Ça, c'est ce qui se passe quand tu travailles pas ta culture.
Alors, passons aux aspects un peu méthodologiques.
Ça fait hyper peur ce que je viens de dire.
Ouais, non, mais justement, pour éviter de se retrouver dans cette situation-là, rentrons un peu dans la méthodologie, parce que c'est vrai que ça peut paraître extrêmement abstrait de dire mm-hmm. « bon, bah, il faut travailler sa culture d'entreprise ». Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les différentes étapes que toi, tu peux conseiller pour faire ce travail, justement ?
Alors, ça dépend beaucoup de quel stade de ton organisation tu en es.
Prenons... Parce que globalement, c'est assez rare que les entreprises commencent dès le début à travailler leur culture d'entreprise. Donc on va dire, il y a quand même déjà au moins une dizaine, une vingtaine, voire peut-être justement, on est au stade à peu près des 50 salariés. Il y a une croissance plutôt bonne. Mmh. Et puis à un moment donné, en fait, on se dit... j'ai l'impression que là, il y a un problème de communication, on recrute des gens un peu différents, qui sont pas tous alignés. Donc à peu près à ce stade-là.
Ok. Écoute, à ce stade-là, nous, quand on le fait avec les harmonistes en général, on aime bien le faire de manière assez collaborative et on part sur un présupposé qui est, pour nous, la culture, on la fait émerger, on la définit pas, si tu veux. On n'est pas là pour la plaquer, on n'est pas là pour juste prendre le dirigeant dans une pièce et dire tu veux que ce soit quoi ta culture. Donc on fait beaucoup de collaboratifs. Donc ça commence par, nous on fait beaucoup d'entretiens, on va parler à beaucoup de monde, on fait passer des enquêtes dans la boîte, etc. Pour comprendre qu'est-ce qui fait que cette boîte est cette boîte. Et là, pour le coup, évidemment, on va pas aller voir les gens et leur poser la question, c'est quoi vos valeurs ? Parce que ça ne marche pas. C'est comme quand tu es en recrutement, vous êtes humble ? Oui, bien sûr. Non, on va plutôt essayer de comprendre, de partir sur des histoires, de comprendre comment ils travaillent, qu'est-ce qui marche très bien dans la boîte, qu'est-ce qui les rend fiers. On va le faire ça avec tous les dirigeants, bien évidemment. Les fondateurs, le comité de direction s'il y en a un, on va aussi le faire avec des managers, on va le faire avec des salariés, on va le faire avec des nouveaux arrivants, on va le faire avec des gens qui sont là depuis longtemps. Le but va être d'avoir l'échantillon le plus représentatif de gens qui vont venir te parler de leur expérience. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, le but c'est de comprendre et de voir dans tous ces discours, toutes ces histoires, quels sont les dénominateurs communs. Et en général, c'est là que tu vas commencer à trouver tes éléments de culture. Donc ça, tu synthétises, tu formalises comme tu peux. En général, ce qu'on aime bien faire aussi, c'est le présenter aux dirigeants, parce que des fois, il peut tomber de sa chaise. C'est rare, mais notamment quand tu fais des trucs sur l'alignement, il peut tomber de sa chaise. Et on va dire, qu'est-ce qui est OK pour toi, qu'est-ce qui est non négociable, parce que c'est aussi ton entreprise, en fait. Donc, il y a des choses où tu veux qu'elles soient comme ça. Et là, on va travailler pour, peut-être que c'était mal compris, peut-être que c'était mal diffusé, mal incarné, et on va renforcer ça. Et sur quoi est-ce qu'on va faire converger tout le monde, sur quoi est-ce qu'on va aligner les équipes, etc., etc. C'est assez rare qu'on ait des grosses divergences sur ce genre de sujet. Et après, tu vas formaliser tout ça. Donc là, on fait beaucoup en atelier collaboratif, et on aime vraiment que ça vienne des équipes, que ce soit eux qui trouvent les noms des valeurs, et surtout ce qu'on met derrière, par exemple, quels sont les comportements que tu mets derrière. Tu peux mettre juste un mot, ça va être pas beaucoup.
Oui, parce que justement, en fait, c'est une fois que t'as collecté toutes ces informations-là, y a cette phase, comme tu dis, de formalisation. Ouais. Et comment, justement, tu formalises une culture d'entreprise ?
Il y a plein de manières de le faire, ça dépend beaucoup des composants. Le graal un peu, enfin la méthode un peu consacrée, c'est que tu vas écrire ce qu'on appelle un culture book, qui peut être un deck, qui peut être une vidéo, une suite de vidéos, un podcast, un tableau interactif, enfin ce que tu veux, mais le plus connu étant le culture memo de Netflix, qui reste le document business le plus téléchargé de l'histoire internet.
Je le mettrai quand même dans les notes pour les personnes qui ne l'ont jamais lu.
Et qui n'est pas très beau en plus, tu vois, c'est vraiment, ça te décomplexe de faire cet exercice. Mais donc tu formalises tout ça et donc du coup tu vas venir écrire. Pour moi, ce qui est important, c'est qu'il y ait le minimum de possibilités d'interprétation différentes. C'est pour ça que quand je disais à mettre un mot, ça n'aide pas. Quand on fait un travail sur les valeurs, on va dire ok, les valeurs, mais quels sont les comportements qui en découlent, quelles sont les lignes rouges qui en découlent. Et ça on le fait justement à l'atelier. On fait travailler les équipes, on prend les formulations, tu peux les faire voter, enfin tu peux doser ton curseur de collaboratif, et derrière tu écris ce culture book, ce values book, enfin tout dépend de là où tu en es, que tu peux ensuite rendre accessible et voir diffuser en externe dans ton entreprise.
Et alors, une fois qu'on a ça, Est-ce que on peut considérer que le travail est fini
Non, évidemment. Ensuite, une fois que tu as fait cette, donc t'as la première phase d'émergence, la deuxième phase de formalisation, la troisième phase qui sera une phase d'ancrage, qui peut potentiellement durer toute la vie de ton entreprise.
Vaut mieux d'ailleurs.
Vaut mieux, effectivement, mais en tout cas, tu peux commencer à le faire de manière un peu systématique, où là, tu vas prendre tes différents processus et tu vas essayer de te dire, je vais décliner ma culture pour qu'elle transpire dans ces processus. Je vais le faire de manière consciente. C'est intéressant pour ton business parce que déjà pour l'opérationnel, c'est un moyen de faire un pas de côté sur comment est-ce qu'on travaille et te dire ok, est-ce que là on reflète assez ce qu'on veut? Peut-être pas, qu'est-ce qu'on pourrait changer? Et là tu peux être vraiment sur des choses très opérationnelles. Donc tu vas l'incarner dans ton produit, tu vas l'incarner dans ta communication, ton identité de marque, tu vas l'incarner dans la formation de tes managers, tu vas l'incarner dans la manière dont tu gères les tensions, etc. Et même dans tes cibles d'acquisition, dans la manière dont tu fais de la finance, dans ta stratégie d'impact. Le but, c'est d'aller reprendre toutes tes activités, de mapper tous tes process et de te dire sur chacune de ces activités-là, comment on fait pour être plus cohérent, plus en accord avec la culture qui est la nôtre et qu'on a définie.
Tout à l'heure, t'as évoqué le fait que la culture, c'est pas juste l'apanage du dirigeant, mm-hmm. et on peut pas dire la culture, ça appartient à tout le monde, etc. Mm-hmm.
Mais de fait, comment on peut dire, en fait, c'est les deux.
Ça peut être les deux, mais est-ce qu'il y a je sais pas, une équipe, comment ça se passe concrètement une fois que tu passes, tu te dis on a travaillé notre culture, on a notre culture book, on travaille les process, etc. Comment est-ce que tu l'as fait vivre quand même à l'intérieur de l'entreprise?
Donc effectivement, il y a tous ces aspects avec chacun par ses comportements, etc. Maintenant, ce qu'on fait souvent avec les harmonistes sur nos missions et qu'on pousse vraiment à faire, c'est mettre en place ce qu'on appelle une culture team. Donc tu l'appelles, tu lui donnes le nom que tu veux.
Une équipe de culture,
puisque nous sommes sur un podcast en français, voilà. En gros, d'avoir un espèce d'organe qui soit là pour justement faire vivre ta culture. Et cet organe, en général, il n'est pas composé de gens que tu vas embaucher et dont c'est le métier. Même s'il y a des boîtes qui commencent à avoir des culture managers, etc., c'est plutôt des salariés d'entreprise. Ça peut être tournant, ça peut être une équipe liquide. Enfin, il y a plein de manières de l'organiser, mais qui vont avoir pour rôle justement de mener ce travail d'incarnation de la culture, qui vont pouvoir travailler directement avec les opérationnels sur on revoit tel process en atelier, on peut se réunir une fois par mois, une fois toutes les deux semaines, le rythme est propre à chacun, et qui vont aussi avoir ce rôle à la fois d'ambassadeur de la culture, c'est-à-dire dans leurs équipes d'aller porter la culture, enfin, d'être un peu ce référent culture entreprise, de faire remonter les comportements à valoriser, parce qu'en fait c'est une très bonne pratique de mettre en avant il y a eu tel succès qui incarne hyper bien notre culture ou qui a été permis parce que etc., pour montrer que cette culture elle est réelle. Et à l'inverse, ils sont en capacité d'alerter les dirigeants sur ça c'est pas possible, ça c'est pas ok, on a des comportements qui sont hors cadre, le but étant pas de faire l'œil de Moscou, mais simplement d'avoir ce principe de subsidiarité et d'avoir des gens qui sont à différents niveaux et dans différentes équipes et le plus près possible du terrain.
D'accord, donc oui, ça, là on voit bien le côté, on a formalisé, on a montré ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, ce qu'on accepte pas, et puis il y a le côté aussi quand même des personnes qui ont un peu ce rôle-là de gardien du temple, pour s'assurer que tout ça vit bien dans le temps, et potentiellement alerter aussi à certains moments quand il y a des comportements qui sont un peu divergents, voire dire, il faut peut-être faire évoluer parce qu'il y a une nouvelle personne qui arrive, etc.
Et idéalement, t'as un sponsor pour cette culture team qui est au niveau COMEX. Ça peut être le DRH, mais pas forcément, qui va pouvoir arbitrer sur les différentes initiatives qui sont proposées par la culture team, et qui va aussi pouvoir donner du poids et être sûr que les choses se fassent, parce que à titre personnel, faire un organe purement consultatif et qui a proposé des choses sans que rien ne suive, c'est un bon moyen de créer de la frustration aussi.
Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple, alors soit un exemple d'une entreprise que tout le monde connaît, soit d'une entreprise que tu as accompagnée, où tu te dis je trouve que leur culture est vraiment remarquable et le travail qu'ils ont fait est vraiment impeccable et je sais qu'ils vont aller dans une bonne direction.
Waouh, il y en a énormément du coup, puisque j'en ai quasiment toutes les semaines au micro. écoute, je peux te donner un exemple d'un projet qu'on a fait qui incarne bien justement ce côté mettre en action ta culture et tes valeurs. Avec Hélène de Saint-Front, du coup, qui anime aussi Harmony Inside, etc. Enfin, qu'on salue si elle écoute, et je n'en doute pas qu'elle écoutera.
Bonjour Hélène.
On a accompagné une grosse fintech, enfin une licorne française. Et en gros, leur enjeu c'était de se dire, c'était post-Covid. Ils refaisaient un gros séminaire d'entreprise et ils voulaient raviver un peu la flamme autour de leurs valeurs d'entreprise. On est arrivé, on a fait notre direct pour savoir si elles étaient encore pertinentes, elles étaient encore pertinentes. Et le sujet, c'était vraiment de les mettre en action. Et donc là, on se retrouve avec un workshop pour 320 personnes et des brouettes, je crois, où en gros, on prend les valeurs d'entreprise, d'un côté, et de l'autre côté, on prend une trentaine de sujets stratégiques pour la boîte qu'on a été collectés auprès des dirigeants. Chaque équipe de 10 personnes, ça fait une trentaine d'équipes, reçoit une valeur et reçoit une question sur le futur de l'entreprise. Et on est vraiment sur les trucs satisfaction client, rapidité d'exécution, UX, enfin des vrais sujets vraiment très business. À la fin du workshop, chaque équipe sort avec un projet à mettre en place pour répondre à cette problématique. Ils pitchent devant le COMEX. Sur 30 projets, ils en gardent 10 et ils les mettent en place. Voilà un exemple de mission. Et ça, pour le coup, quand tu commences à avoir ce degré d'intrication, je sais pas si c'est un vrai mot, mais entre le. Voilà. Donc, quand tu arrives à intriquer ta culture et ton business à ce point-là, aucun doute que ça marche. En plus, c'est une boîte qui a une mission hyper forte, etc. Donc, et cette boîte, je ne peux même pas te dire, je suis sûr qu'ils vont aller loin et ils cartonnent déjà, en fait.
Et alors, parce que tu disais que tu en recevais toutes les semaines, effectivement, sur le
podcast. J'essaie. C'est difficile, tu le sais.
Justement pour que des auditeurs se disent bah tiens super je veux profiter de l'occasion, est-ce que tu pourrais nous donner deux épisodes qui toi t'ont marqué dans le cadre du podcast Harmony Inside?
Écoute, il y en a un qui illustre bien ça, c'est l'interview d'Alexandre Bonetti, qui est le CEO de Simple et Beau, qui est une agence web mais plus que ça maintenant. Et en gros, il va vraiment te raconter le côté j'y croyais pas et ça a tout changé chez moi. Et c'est aujourd'hui mon positionnement sur un marché hyper concurrentiel, c'est ma culture d'entreprise. T'écoutes ça, t'es obligé d'y croire. Vraiment, c'est un apprentissage qu'il a fait de ce truc-là et ça a tout changé à sa vie et de dirigeant et à sa boîte. Un autre épisode que j'ai bien aimé, je suis obligé de le citer, Corentin Cadet, CEO de Clocks. Alors, on parle de tout et n'importe quoi dans cet épisode parce que c'est vraiment devenu un ami, mais pour le coup, lui, c'est vraiment une vision presque politique de la culture entreprise. C'est vraiment créer une société. Et il le fait parce qu'il crée un espace dans lequel les gens peuvent s'épanouir en suivant leurs règles. Et ça, pour le coup, je trouve ça très, très fort et assez génial.
D'accord, effectivement, deux très bons exemples et je suis pas sûr d'avoir écouté l'épisode de Simple et Beau, mais de Clocks, oui, je me souviens parce qu'effectivement ça part un peu dans tous les sens, bon. Mais néanmoins le fond est.
Et en plus, on parle très vite tous les deux, donc.
Alors sur le podcast, on parle principalement, voire exclusivement, d'entreprises à mission. Mmh. Et c'est vrai que je me suis dit, quand on parle de culture, finalement, une entreprise à mission, c'est important aussi qu'elle puisse travailler sa culture.
Bien sûr.
Mais, après, j'ai pas de certitude non plus. Est-ce que toi, tu estimes que mission et culture sont connectées, interconnectées même ?
Ah bah, complètement. Enfin, pour moi, une entreprise qui travaille sa mission travaille sa culture. Travaille un pan de sa culture. Je te disais au début, la culture, c'est ce qu'on fait, comment on le fait et pourquoi on le fait. Le pourquoi on le fait, c'est directement lié à ta mission. Quand tu vas formuler une raison d'être, que derrière va devenir une mission, etc., le fait de devenir entreprise à mission, c'est même aller un pan plus loin, parce que tu vas t'organiser pour structurer et décliner ta mission de manière opérationnelle. Donc en fait, c'est un moyen très fort de travailler ce côté le pourquoi, qui est un des quatre grands piliers de la culture.
Et puis bon, je j'abonde complètement dans ton sens.
J'aurais été étonné que tu me contredises. Oui.
Non, et puis c'est vrai qu'en plus, sur le podcast d'Harmony Inside, il y a plusieurs entreprises à mission aussi.
On doit en avoir en commun maintenant.
Ouais, on en a pas encore. Hein.
Ah, c'est vrai ?
Non, pas encore en commun. Mais non, tu me les voles à chaque
mais
fois.
Mais non. Ouais. Mais c'est dit, je leur parle de toi à chaque fois après.
Alors, je te propose qu'on termine cet entretien avec une question un peu plus perso. Uh-huh. Sur LinkedIn, t'écris souvent sur le freelancing.
Ah, ça fait longtemps que j'ai plus écrit, mais oui.
Mais tu vois, sur le fait que ça t'a un peu libéré, etc. Mmh. Est-ce que tu peux, parce que ça fait quoi, 3 ans maintenant
Ouais, ça a fait 3 ans, quasiment tout pile.
Ouais, tout pile, hein, c'est ça, hein, de ce que j'ai pu lire.
Parce que j'ai un très bon sens du timing, j'ai décidé de devenir freelance en janvier 2020.
Voilà, c'était. tu pouvais pas tout prévoir. Hein. Mais qu'est-ce que tu retires de ce passage du salariat vers le freelancing d'un point de vue perso et pro ?
Alors, écoute. J'aurais pas pu faire du freelancing comme ça si j'avais pas été salarié avant. Les gros gaps de conseils ont énormément de tort, mais c'est aussi des endroits où tu apprends beaucoup de choses et tu... Voilà, je suis très content de cette expérience de salarié quand même. Après, qu'est-ce que j'en retire? Je pense que c'est 3 années les plus intenses de ma vie. Tu dois savoir tout faire, en fait. Je pense que c'est le premier truc. Tu dois savoir te gérer toi-même. Personne ne va le faire pour toi. Si tu bosses pas, tu bosses pas. Hein. T'as pas de patron qui vient. Par contre, la banque, peut-être, va venir te chercher. Tu dois savoir te gérer toi-même. Faut apprendre à te vendre. Faut apprendre à te marketer. Faut apprendre à faire des missions sur des nouveaux sujets. Moi, j'étais pas harmoniste avant de le devenir, tu vois. J'étais ravi de pouvoir intégrer ce collectif. Et pour le coup, je recommande à tous ceux qui veulent faire du freelancing, mais qui aiment quand même bosser en équipe, de considérer ce modèle-là. Parce que moi, je sais que le côté solitude m'a pesé énormément sur les premiers mois. Bon, puis c'était confinement, vraiment, ça n'aidait pas. Et le collectif, c'est génial pour ça, quoi. T'as ce côté, je rencontre des gens géniaux, on a une pluralité d'approches et de méthodes et de façons de voir. Et en plus, à la fin, ton client est mieux servi. Surtout sur des sujets complexes comme la culture. Mais de manière générale, c'est vrai, quoi. Tu ne fais que progresser. Et ce côté, j'ai plus de chef, j'ai plus de manager, j'ai plus d'évaluation, j'ai plus personne pour me faire du feedback. Bah, tu le retrouves dans le collectif, quoi. C'est un peu le meilleur des deux mondes.
Il y a un aspect que tu mentionnes assez fréquemment, c'est justement ton équilibre vie pro vie perso.
Ouais, complètement.
J'ai l'impression qu'en fait, t'as un meilleur équilibre vie pro vie perso maintenant qu'avant,
je vais même te dire, je n'ai pas d'équilibre vie pro vie perso, j'ai une vie dans laquelle je fais les trucs. Je sais que c'est pas encore un truc très populaire. Moi, je rejette complètement cette notion vie pro et vie perso. T'es un être humain, t'es un individu, t'as qu'une vie, t'as un nombre d'heures, un nombre de jours à passer sur Terre. Et le côté de passer 80% de mon temps éveillé au bureau parce qu'on a décidé qu'il fallait travailler de 9 à 18h30, moi ça me fait pas rêver, il y a des gens pour qui c'est très bien, il n'y a aucun problème avec ça. Moi je suis content de pouvoir travailler quand je veux, et si j'ai envie d'aller courir à 16h, d'aller courir à 16h, tu vois. Enfin, oui, c'est apparemment le Graal de... Mais voilà, en gros j'ai des activités qui me ramènent de l'argent, d'autres qui me ramènent pas, et je gère ça comme je veux et comme je peux, ce qui veut pas dire que j'ai pas des contraintes, enfin t'es jamais complètement libre, hein. T'as des clients, t'as des exigences, t'as des choses à rendre. Mais tu choisis tes contraintes. Et pour moi, c'est vraiment ça le but, quoi. Il y aura toujours des problèmes. Choisis tes contraintes et assume-les.
Ça me paraît de très très bonnes leçons.
Merci.
Sur ces 3 ans. Alors, on va finir avec l'instant musical.
Yes. La question qui m'a le plus angoissé.
Alors, tu n'es pas le seul, hein, tu n'es pas le seul, parce que c'est toujours le moment le plus délicat. Hein, c'est partager un bout de soi quand même, hein, mm-hmm. de partager son morceau. Est-ce que tu peux nous partager ton instant musical, soit un morceau en lien avec ce qu'on s'est dit, ou ton coup de cœur du moment, ou un autre morceau qui a marqué ta vie, je te laisse choisir.
Ah oui, alors j'avais préparé un morceau, est-ce qu'il est en lien avec ce qu'on vient de se dire, je sais pas. Non, un morceau que j'écoute beaucoup en ce moment, c'est un artiste que j'écoute beaucoup, c'est French 79, pour le dire de manière plus intelligible, et ça s'appelle Hometown, c'est un peu électro. Moi j'aime beaucoup.
C'est un groupe marseillais, hein, je crois.
Je crois, ouais. Ouais, sud de la France, ça, en tout cas, ouais. Il me semble bien, et c'est très très cool.
On va l'écouter. Merci beaucoup Vincent pour cet échange, et je pense qu'on y voit un peu plus clair.
J'espère.
Sur ce que c'est que
J'espère.
La culture d'entreprise, pourquoi travailler, les bénéfices de la culture d'entreprise, et surtout comment mettre le premier pied à l'étrier. Après, c'est toujours effectivement difficile de le faire seul, donc c'est vrai qu'un accompagnement est généralement bienvenu.
Mais alors, si tu veux, je peux te dire pourquoi c'est bienvenu, au-delà du fait que c'est parce qu'on vend notre soupe.
Vas-y.
En fait... Le principe de travailler sur ta culture, c'est que tu vas travailler sur un système, et c'est un système dont non seulement en tant que dirigeant tu fais partie, donc t'es intrinsèquement biaisé, et c'est un système qui va bouger quand toi tu vas bouger. Tu imagine-toi une toile d'araignée, t'es dedans, si tu bouges, ça va bouger, ça va se réorganiser. Le fait de te faire accompagner, le but de te faire accompagner par un harmoniste ou par qui tu voudras, c'est pas de dire, les gens vont venir t'expliquer comment on fait, on va amener des méthodos, on a l'habitude de le faire, on a probablement passé plus de temps que beaucoup de monde à se poser la question, donc on va te faire gagner du temps, mais c'est aussi d'avoir quelqu'un qui a un regard neutre, et qui est extérieur, et qui va savoir te dire, est-ce que ce truc-là que tu pensais, cette préconception que tu avais, ce biais-là, qui est lié au fait que bah, tu veux que les choses se passent comme tu aimerais qu'elles se passent, enfin, tu as un biais de confirmation concrètement, bah, en fait, c'est pas le cas. Et tu peux pas le savoir parce que toi, tu es déjà dedans et tu as forcément une vision qui est la tienne.
Bon, bah, parfait pour conclure cet épisode. Merci beaucoup, Vincent, et puis à bientôt.
Merci bien, salut.
Merci de votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à le partager à votre réseau et en plus, je sais, j'en demande beaucoup, à noter l'épisode ou le podcast sur Apple Podcasts ou Spotify. C'est vraiment important pour en améliorer le référencement. Également, si jamais vous avez des idées d'entreprises à mission que je pourrais interroger ou des recommandations d'experts thématiques qui vous ont vraiment marqué, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn ou directement par email à vivien@lamachineascence.fr. C'est terminé pour aujourd'hui, n'hésitez pas à retrouver les précédents épisodes et moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour une prochaine rencontre.